en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication d'Emmanuel Devaux, directeur d'études à l'HESS, intitulée « Quel héritage scientifique pour les mythologiques » de Claude Lévi-Strauss. C'était en séance à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 26 avril 2013. Retrouvons-le en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est une grande émotion pour moi d'être en ces lieux prestigieux. Je prends comme un temps un grand honneur d'avoir à m'y exprimer. Je vous remercie donc pour m'avoir invité et ces remerciements vont en priorité à M. Bernard Potier qui avait lancé en votre nom l'invitation. Peut-être le fait que j'avais prononcé alors, au détour d'une conversation, le nom de Claude Lévi-Strauss a joué un rôle en la circonstance, car nous le savons tous, le grand anthropologue était aussi un peu le locataire de ces lieux. Ici, je me réfère à l'Institut, étant membre de l'Académie française. Toutefois, nous le savons tous également, l'immortalité que l'on a conférée à Lévi-Strauss tenait beaucoup au caractère littéraire et moral de son œuvre. Pour ma part, bien qu'ayant une immense admiration pour cette dimension, je souhaite me focaliser sur la portée strictement scientifique de son œuvre, pour laquelle j'éprouve une non moins grande admiration. Cela étant dit, d'un point de vue scientifique, convenons qu'il y a deux Lévi-Strauss, celui des structures élémentaires de la parenté et celui des mythologiques. Le premier est pour l'essentiel encore largement fonctionnaliste. Ainsi, selon ce premier Lévi-Strauss, la finalité ultime du mariage réside dans sa capacité à créer du lien social. En fait, ce n'est que plus tard que le grand anthropologue se détachera de ce mode de raisonnement pour entrer dans un univers résolument mentaliste. Préparé par la transition qu'offrent les deux ouvrages parus presque simultanément en 1962, « Le totémisme aujourd'hui et la pensée sauvage », la publication des mythologiques s'étale de 1964 à 1971. Mais d'une certaine façon, on pourra même dire qu'elle occupera le deuxième Lévi-Strauss jusqu'à la fin de sa vie, dans la mesure où ses derniers livres, « La voix des masques »,« La potière jalouse »,« Histoire de lynx », apparaissent comme autant d'attentats à la monumentale tétralogie. Tentons de cerner en quelques mots la démarche du second Lévi-Strauss. Partant d'un récit mythique raconté par les Indiens Bororo du Brésil central, qu'il avait visité quelques décennies auparavant, il parvient à balayer la totalité de deux Amériques en passant d'une mythologie locale à une autre et en montrant comment les récits racontés ici se retrouvaient là, sous forme inversée. Les opérations d'inversion portent sur l'intrigue ou sur ses protagonistes. Une conflagration devient une inondation. Le conflit entre un père et son fils devient un conflit entre un homme et son gendre. Mais ces opérations d'inversion s'avèrent parallèles ou corollaires d'un glissement d'un code à un autre. Un beau garçon, objet de toutes les convoitises matrimoniales, devient un plongeon dont le magnifique plumage géométrique évoque les vêtements richement brodés du précédent. Le couple que composent un frère et une sœur engagés dans des amours illégitimes est transfiguré dans l'éclipse du soleil et de la lune, tandis que les cendres dont l'héroïne avait enduit le visage de son frère afin de le confondre comme étant son amant deviennent le sang menstruel à mesure qu'elle-même acquiesce le statut d'astre de la nuit. Les viscères du père irascible, victime de la vengeance de son fils qui avait été jeté dans une mare, remontent à la surface sous l'apparence d'une espèce de nénuphar nain, tandis que dans une autre version, elles deviennent la constellation des Pléiades. Cette dernière version suppose, à l'instar de toutes les mythologies américaines, l'étagement du monde. Désormais, c'est nous qui nous trouvons en bas, qui regardons les étoiles comme les entités aquatiques voient les éléments flottant au-dessus d'eux. Les codes dont parle ici Lévi-Strauss équivalent aux grands ordres de la nature, les animaux, les plantes, les astres, la physiologie humaine, pour nommer les principaux d'entre eux. Dans la perspective kantienne, que reprend l'auteur des mythologiques, ils s'imposent à la sensibilité et fournissent ainsi ces cadres à nos facultés cognitives. L'analyse est toujours guidée par la révélation d'un sens sous-jacent. Pour ce deuxième Lévi-Strauss, les mythes, au moyen des inversions et des jeux de permutation entre les différents codes, n'expliquent pas tant le monde qu'ils ne le reflètent dans sa double dimension sociale, en tant que production langagière et environnementale. Car en définitive, ce sont bien les configurations localisées de la nature environnante qui dotent les divers codes de leur pertinence chez tel ou tel groupe. Du coup, c'est la variation du code qui contribue, à côté de l'inversion, à produire du sens. Le code météorologique ne s'exprime pas de la même façon en Amazonie ou dans le Grand Nord canadien ou en Colombie-Britannique. Sous cet angle, souvent négligé, il faut le reconnaître par nos jeunes exégètes de formation philosophique, les mythologiques renouent avec une des intuitions de Sapir, qui voyait dans l'environnement naturel, au sein duquel une population vivait, la première des clés afin de comprendre sa culture et partant sa langue. Du moins à l'origine, car l'histoire, pour l'essentiel les migrations, altère inévitablement le tableau. Les grands traits de la nature imposent donc leurs caractéristiques à une culture donnée. La langue sert, si vous me permettez cet anachronisme, d'interface entre le monde et la culture. Elle reflète le monde, elle exprime cette fameuse Weltanschauung, mais elle le fera d'autant plus efficacement que ses mécanismes propres sont en adéquation relative avec le monde tel qu'il est, autrement dit avec un environnement naturel donné. Mais on se souviendra également de l'aporie dans laquelle Sapir et son disciple autoproclamé, Wolf, durent se débattre. Car, en Amérique du Nord, espace qui leur servait de référence, la distribution spatiale, autrement dit la cartographie, des langues et celle des cultures ne se superpose pas. Donc là, je vous montre une première carte, c'est la carte des langues nord-américaines, des grandes familles. Donc on voit, c'est un peu difficile à distinguer, mais on voit quand même très clairement la famille algonquine qui recouvre pratiquement un tiers du continent, la famille athabascane qui recouvre une grande partie, la famille sioux qui occupe une partie aussi au centre. En réalité, et là je vous montre la carte des aires culturelles, donc vous voyez que la carte des aires culturelles est différente, notamment en ce qui concerne le subarctique, les plaines, de la même façon, les plaines, d'un point de vue de la carte linguistique, se partagent entre l'algonquin et le sioux. Or, ici, les plaines sont évidemment homogènes. De la même façon, le subarctique, d'un point de vue linguistique, se partage entre l'algonquin et l'athabascan, alors qu'ici, bien entendu, ça constitue une seule aire, sans parler des autres aires qui sont encore plus complexes. En réalité, la carte des aires culturelles correspond plutôt à celle des grandes aires, des grandes zones écologiques. Et ce, même si on se réfère à la carte des grandes familles linguistiques de Vogelin, qui compte 7 super mégastocks et qui a longtemps fait autorité sous le label de classification consensuelle des langues nord-américaines. Donc je reviens à cette carte-là, qui est celle-ci. Or, de ce point de vue, problème de cette non-accordance, en quelque sorte, entre ces deux cartes, l'apport de Lévi-Strauss lève une des plus sévères hypothèques qui pesait sur cette ambition d'établir une corrélation entre langue et culture, puisque le système panaméricain des mythes qu'il déploie à travers les deux Amériques s'affranchit des frontières internes du continent, qu'elles soient d'ordre linguistique ou culturel. Même si Lévi-Strauss nous livre, grâce aux mythologiques, les moyens de décloisonner l'Amérique, il nous offre aussi des moyens, des outils et une méthode pour nous permettre d'aller plus loin, à savoir la transformation logique, comme on l'a dit, et un recours tempéré à une phénoménologie intuitive grâce à la notion de code. C'est ce que nous avons fait dans nos deux livres, Quadratura Americana et Spectre de l'anthropologie. Nous avons essayé de montrer qu'en réalité, la logique transformationnelle ne s'appliquait pas seulement aux mythes, mais également aux rituels, aux techniques, aux organisations sociales et aux nomenclatures de parenté. Au fond, chaque culture, les Sioux, les Cheyennes, les Iroquois, les Quakult, les Pueblos, les Hopi, au fond, chaque culture est comme un empilement de différents moments transformationnels de chacun de ces domaines, sachant toutefois que ces moments sont aussi assujettis à une contrainte locale de cohérence. Cette exigence de cohérence réside précisément à la racine de la réflexion de Sapir, puis de Worf. Notons seulement le fait remarquable suivant dans la déclinaison des domaines susceptibles de transformationnalité. En passant du mythe au rite, on s'éloigne du langage. Mais dès lors que l'on passe des organisations sociales aux nomenclatures de parenté, on y revient très vite. D'où l'idée qu'il faudrait peut-être aussi, un jour, sauter le pas et oser interpréter la différenciation linguistique américaine en termes de transformationnalité logique et non pas seulement en termes de phylogénèse, comme cela a toujours été le cas jusqu'alors, sans succès probant d'ailleurs, puisqu'aucun progrès n'a vraiment été observé depuis un siècle. On sait en effet que depuis les audaces de Sapir, qui tendaient à réduire la diversité nord-américaine à 3 mégastocks, et la classification consensuelle de son élève Vogelin, qui en retenait 7, on l'a vu, une nouvelle école, dont les figures de proue sont Marianne Mitoum et Yves Godard, identifie aujourd'hui 62 langues ou stocks linguistiques irréductibles en Amérique du Nord. Ce qui signifie qu'en un siècle, on est passé de la classification de 58 langues de Powell à une nouvelle liste d'autorités qui comprend 62 entrées. Au vu de ce résultat, il apparaît clairement que la méthode phylogénétique, inspirée de la vieille grammaire comparée indo-européenne, n'est pas la bonne. Avec Michel de Fornel, nous avons tenté une première étude en ce sens, en montrant que les grammaires de deux langues qui se jouxtent, mais qui sont tenues pour radicalement distinctes par les spécialistes, en l'occurrence l'Ojibwa et le Dakota, l'Ojibwa est une langue algonquine, le Dakota est une langue Sioux, s'inversaient l'une par rapport à l'autre d'un point de vue sémantique. L'Ojibwa qui donne la priorité absolue au tu, en particulier sur le je, cas exceptionnel sinon unique à l'échelle du monde, s'oppose ainsi au Dakota en ce sens que le premier repose sur la coprésence et l'autre au contraire sur une sorte d'exis du locuteur dont le corps même entretient une relation presque passive avec le monde. Revenons à Lévi-Strauss. On se souvient qu'il avait fait du mitème du dénicheur d'oiseaux l'épine dorsale de sa quête et du coup avait laissé croire en son hégémonie absolue sur la mythologie du Nouveau Monde. Or, un récent arpentage du corpus nous a permis de voir qu'en réalité, la mythologie américaine repose sur un quadrant de mitèmes dont tout mythe, quel qu'il soit, ne se trouve éloigné qu'au plus d'un jet de pierre, si on peut se permettre l'expression, au regard de la logique transformationnelle. Il y a le dénicheur, bien sûr, mais il y a aussi ce que Lévi-Strauss avait d'ailleurs lui-même qualifié de la vulgate américaine, à savoir l'histoire des amours incestueuses de Soleil et Lune, nous l'avons déjà évoqué. Il y a ensuite le thème de la tête qui roule, et enfin celui de la parade des animaux. On obtient ainsi un quadrant ou un carré à valeur sémantique, que je vous montre présentement. Voilà. Chacun de ces piliers est vecteur d'un sens, ou plus exactement de ce que nous appellerions une nébuleuse sémantique, qui elle-même s'appuie sur une phénoménologie aux contours nécessairement élargis. Le dénicheur d'oiseaux, qui relate toujours une histoire de conflit entre deux protagonistes appartenant à des générations qui se suivent, renvoie à une ontologie reposant sur la succession des individus dans le temps. Il s'agit d'une mesure scalaire du temps qui se décale sur l'ordre des naissances et qui concerne chacun d'entre nous, ordre de naissance qui est irréversible et possède de ce fait le caractère d'une hiérarchie absolue. Le fait que le fils ou le jeune gendre doivent toujours grimper le long d'un arbre signifie cette montée, en définitive irrépressible, de ce que précisément nous appelons la génération montante. Le thème de la conjonction des astres renvoie à la distinction des sexes et à ses diverses valences périodiques, dont les menstruations féminines, périodicité moyenne par excellence, restent le meilleur indicateur, d'où les tâches de lune. Lévi-Strauss l'avait montré. La tête qui roule symbolise purement et simplement la force vitale qui, tôt ou tard, finit par s'épuiser, à l'instar de toutes les occurrences mythiques de la tête maléfique qui, tôt ou tard, finissent par s'immobiliser. Enfin, le thème du défilé des animaux reflète la diversité des espèces naturelles, la discontinuité par excellence au sens de la continuité de la nature, au sein de la continuité de la nature. Le thème fait écho au principe totémique. Autrement dit, les quatre piliers de la mythologie renvoient à la définition de l'être humain comme une entité vivante, sexuée, appartenant à une espèce naturelle parmi d'autres, mais aussi à une époque donnée, autrement dit à une société qui possède en soi une valeur historique, contrairement à l'idée que les Amérindiens n'auraient pas de conception de l'histoire. Il se trouve que l'on peut superposer aisément à ce quadrant celui des organisations sociales, à savoir celui que nous avions appelé dans Quadratura Americana le quadrant des sociems élémentaires. Sociems élémentaires, il s'agit évidemment d'un petit clin d'œil à Durkheim. Ce quadrant se présente sous cette forme. Le clan, c'est-à-dire le groupe de naissance, c'est là où on est. Le mariage, le groupe de mariage qui s'est défini de façon relative selon les règles de l'endogamie et de l'exogamie. Le groupe de commensalité, lui on se nourrit au jour le jour, et la confrérie guerrière ou chamanique. Et en fait, ces différents sociems se réalisent dans des organisations, dans des phénomènes qu'on peut très facilement lire dans l'ethnographie nord-américaine et probablement américaine. Permettez-moi juste de préciser le sens de groupe de commensalité et en quoi il s'assimile au défilé des animaux et à la logique totémique. L'arrière-plan ici est le paradigme de la substance qui caractérise tous les êtres vivants en tant que nourriture potentielle, alors même qu'elle revêt des formes distinctives, en l'occurrence celles propres à chacune des espèces animales, voire végétales. On se situe dans la problématique d'un continu sous-jacent à la discontinuité interspécifique. Nous avions également développé dans Quadratura Americana un quadrant des nomenclatures de parenté, mais je vais vous en faire l'épargner et arriver donc à ce point où, conformément à notre hypothèse de la source transformationnelle de la diversité linguistique américaine, il nous faut envisager un nouveau quadrant. Dresser celui-ci, qui viendrait se superposer au précédent, serait guidé par deux objectifs. Refléter quelque chose d'une spécificité amérindienne dans le domaine de la langue et offrir un cadre interprétatif nous permettant de mieux débrouiller le foisonnement des catégories, notamment syntaxiques, qui caractérisent la diversité linguistique américaine, et qui semble être à la source des difficultés que l'on a à les classer et à faire une phylogénèse. Au fond, l'idée que nous proposons consiste à attaquer la difficulté par les deux extrémités. D'une part, par la racine, peut-on dire, en multipliant les comparaisons de celles que nous avons menées avec Michel de Fornel à propos du Dakota et du l'Ojibwa, et d'autre part, par le haut, en introduisant un cadre très général susceptible de nous inspirer ou de nous suggérer des liens transformationnels pertinents au cas par cas entre les langues. Un tel quadrant, que l'on pourrait appeler celui des sèmes fondamentaux des langues amérindiennes, se présente donc ainsi. Il se superpose au précédent. Donc nous avons donc la personne, la différence sexuelle, le rapport entre l'agent et le patient, celui qui mange et celui qui est mangé, et enfin l'animé et l'inanimé. À première vue, il paraît assez banal, mais à y regarder de plus près, il en ressort une redistribution complète des grandes polarités sémantiques. Le sang, le sexe, est ainsi détaché de la personne. Si l'on admet que c'est le thème du dénicheur d'oiseaux qui correspond à ce pôle de la personne, on s'aperçoit alors que le registre fondamental tient plus ici à la question de la localisation qu'à celle du sexe, comme c'est le cas dans les langues indo-européennes. La localisation en tant qu'inscription dans le monde, donc dans le temps, en tant que fondement ontologique. L'arbre du mythe le long duquel grimpe l'enfant destiné à se substituer à son père, à son beau-père ou à n'importe lequel de ses prédécesseurs signale en effet un emplacement, mieux une implantation, un enracinement spatial de cette séquence cruciale pour la définition du soi. Or, on sait que les langues amérindiennes prêtent une attention particulièrement vive à la spécialisation, que ce soit celle du locuteur, de son ou de ses interlocuteurs, ou encore de ses référents. C'est par exemple la question de l'oviatif, où il y a une quatrième personne. La quatrième personne, c'est celui qui est le plus éloigné de celui qui parle. Et cette importance reconnue est toujours mise en relation avec une corporalité. Nous venons de le voir à travers l'exemple de la transformation qui lie l'Ojibwa et le Dakota. On voit de même, sur la base inférieure de notre quadrant, se dessiner une tension particulière en termes d'agentivité, donc la relation entre patient, agent et patient. laquelle est relativement détachée d'ailleurs de la notion de personne, mais s'articule à la notion même de ce qui est animé, autrement dit de supposé vivant, et de ce qui est inanimé, autrement dit de supposé inerte, dévitalisé. Et l'opposition ne serait pas tant entre le vivant et le mort que ce qui est vivant et ce qui est inerte. Ce qui permet d'avoir une eschatologie totalement différente de la nôtre. Ce n'est pas un hasard si l'attention des linguistes américanistes s'est focalisée depuis quelques années sur ce point, celui de l'agentivité. On pense en particulier aux travaux de Charles Fillmore, repris par Bernard Potier, ou encore plus récemment ceux du groupe animé par Aurore Monod-Béclin et Valentina Papnarski. Se posera alors la question d'une ergativité spécifiquement américaine, différente de celle rencontrée dans le Caucase ou en Australie. En bref, notre quadrant des sèmes sémantiques suggère un redécoupage des continuités et des discontinuités sémantiques qui soient propres à l'Amérique. Comme Lévi-Strauss avait, quoi qu'il en dise, dégager un langage mythique propre à ce continent, celui-là même qui habiterait, selon lui, l'autre moitié du monde. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication d'Emmanuel Devaux, directeur d'études à l'HESS, intitulée « Quel héritage scientifique pour les mythologiques ?» de Claude Lévi-Strauss, lors de la séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulée le 26 avril 2013. À bientôt sur Canal Académie.